nous sommes là ce soir pour parler de Secret Wars.
Secret Warriors. Une petite série qui est assez sympathique, scénarisée par Jonathan Hickman. Enfin, d'abord co-scénarisée par Brian Mendis et Jonathan Hickman. Pas beaucoup d'épisodes, puisqu'après, effectivement, c'est Hickman qui va prendre les rênes. Secret Warriors, ben, en fait, finalement, c'est les aventures dans un monde d'espionnage assez hard de Nick Fury. Alors, Nick Fury, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était le personnage récurrent de l'univers Marvel qui est là depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut se poser des questions sur comment, quelle est sa longévité. Bon, effectivement, il a reconnu dans quelques-unes de ses aventures, il a été en contact avec un produit qui s'appelle l'Infinity Formula et qui fait qu'il ne vieillit quasiment plus, ou à un rythme très très lent. Et ce Nick Fury, en fait, est un ancien commando qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, qui a été après un agent de l'OSS et de la CIA, et qui finalement après est devenu donc le directeur du SHIELD, qui était en fait une agence d'espionnage au départ américaine, puis après internationale.
L'acronyme du SHIELD, Stéphane, ça veut dire
Supreme Headquarters, sauf... Alors attends, ça dépend desquels.
Il y en a deux. Déjà, c'est impossible d'en souvenir quand il y en a un.
Supreme Headquarters of International Espionage and Law Enforcement Division, pour ça, le ça premier. C'était celui de Kirby, de Stanley Kirby.
Et le deuxième, c'est Strategic
Hazard. Strategic Hazard Intervention Espionage Logistic Directorate.
Ouais, ça doit être ça. Mais enfin, en tout cas, on a tous les bons mots. Peut-être
si, parce que j'ai le mug. Donc...
Le geek.
Tous les matins, je bois un café dans un mug qui s'appelle, qui est I am an agent of chill.
Stéphane, tu sais que là, on est comme en train de parler de tes petits déjeuners alors qu'on est censé parler de comics.
Donc, en fait, effectivement.
Reprenons les bases.
Le SHIELD, après quelques mésaventures et la destitution de Fury, finalement, va être dissous. Parce qu'en fait, Fury, le moment avait... c'était dans une série qui s'appelait Circatoire, fait une vendetta contre la Latverie et qui l'avait amené à créer un incident diplomatique, enfin international, de grandeur nature.
Alors, rappelons quand même que le SHIELD, à l'époque, est une organisation de l'ONU.
Oui.
Mais
financée en grande partie par les États-Unis.
Voilà. Alors, elle est financée par l'ONU et les États-Unis ont la majorité de blocage. Donc, en gros, c'est les États-Unis qui ont le droit de dépenser tout seul et sans demander leur avis aux autres le fric de l'ONU. Ce qui explique effectivement que pendant Secret War, pendant la guerre Civil War, eh bien, tout simplement, le ministre le SHIELD est là pour faire appliquer une loi aux États-Unis, ce qui est totalement absurde.
Parce
que c'est un organisme de l'ONU qui est en train de foutre des gens en prison parce qu'ils respectent pas une loi aux États-Unis. Ouais.
Mais quand on regarde, c'est un petit peu aussi le problème qui était apparu dans les Stormwatch, mais que Warren Ellis avait traité de façon intelligente, parce que même si les Stormwatch étaient une organisation de l'ONU, il y avait une interdiction formelle d'intervenir sur le sol américain. Ce qui faisait qu'ils étaient obligés d'avoir une équipe Black Ops pour pouvoir régler certaines difficultés. Donc effectivement, bon là, c'était une contradiction qui a toujours existé avec le SHIELD. Hein, mais bon. Après, effectivement, pendant un petit moment, suite aux événements de Secret Wars, Nick Fury part dans la clandestinité. Et donc, elle est remplacée par Tony Stark. Enfin, pendant un petit moment, c'était pas Maria Hill, hein, par Maria Hill pendant un petit moment.
Maria Hill, effectivement.
Et après, c'était Tony Stark qui avait pris les rênes du monde libre, on peut dire.
Bah, il avait repris les rênes du SHIELD après avoir été viré de son poste de ministre.
Tout à fait. Et après, les problèmes avec Avengers Disassembled. Et après Civil War, effectivement, ce qui s'est passé, bon, il était toujours directeur, mais petit à petit, d'autres menaces apparaissent. Donc avec, justement, Norman Osborn qui reprend les rênes du...
Du SHIELD,
voilà, qui le dissout, qu'il met en vente tout le matériel, ce qui a une importance pour la suite. Et derrière, en fait, finalement, on va créer une nouvelle agence qui s'appelle le Hammer. Pendant ce temps, Nick Fury, lui,
C'est quoi l'acronyme de Hammer, déjà ?
Aucune idée. Je crois qu'il n'a jamais été donné.
Ben, en fait, c'est une question qui est posée directement
à Norman Osborn.
À Norman Osborn.
Et la réponse, c'est que de toute façon, on frappe.
Et les filles à la fille, vous êtes mon attaché de presse, c'est à vous de savoir répondre à ce genre de questions.
Donc en fait, Nick Fury se retrouve pendant cette période, donc en clandestinité. Et un événement qui passe, apparaît dans les Mighty Avengers, finalement, au départ un petit peu anodin, va finalement va être une boule de neige. Il rencontre, lors de Secret Invasion, en fait, on s'est aperçu que des Skrulls avait remplacé des super-héros ou des personnages influents chez les Terriens et pour refaire une invasion qui est larvée un peu en douceur. Et que Nick Fury, une de ses collègues, la comtesse Valentina de Allegra,
Allegro des Fontaines.
Allegro des Fontaines va essayer de le tuer. Et en fait, en déjouant cette tentative d'assassinat, il s'aperçoit que c'est un Skrull. Et qu'à partir de là, il ne peut plus avoir confiance en personne. Pour essayer de remédier à cette situation, il est obligé d'activer des super-héros que lui seul connaît. En fait, ce qui s'appelle les chenilles, les Caterpillars en VO. En fait, ce sont des enfants qui sont soit des enfants de super-vilains ou de personnes qui ont eu des super-héros dans leur famille. Qu'on se retrouve avec, par exemple, un petit-fils du Phantom Stranger, le vieux super-héros du Far West. On se retrouve avec le fils de Dr. Druid, qui a même une certaine capacité en matière de magie, la fille du Dr. Hyde, Quake. Et cette équipe... Donc devient un peu surnommé les Secret Warriors, mais en fait c'est l'équipe Team White. Et elle va avoir un rôle assez important dans Secret Wars, pendant la période de Secret Invasion, où en fait ils vont réussir un petit peu à débarquer pour appuyer tous les Vengeurs et tous les super-héros pour régler l'invasion Skrull. Mais pendant ce temps, ça n'a pas sans conséquence, puisqu'effectivement après, c'est Norman Osborn qui devient le directeur du MR. Et Nick Fury est obligé de repartir encore plus dans la clandestinité. Surtout qu'entre-temps, il se retrouve à mener une guerre contre l'Hydra, qui est en proie un peu à une guerre civile, où il y a en fait plusieurs factions de l'Hydra qui sont en train de se déchirer, et qu'il s'est aperçu au fur et à mesure que le SHIELD était infiltré et que finalement le comité de directeur du SHIELD finalement est quasiment composé que d'agents de l'Hydra. Et sa volonté, en fait, il veut arriver à régler une bonne fois pour toutes la menace qui est composée par l'organisation qu'est l'Hydra. A partir de là, il va utiliser quelques méthodes assez... il va finalement, après avoir créé la Team White, il va créer d'autres équipes de Caterpillars, et qui vont être les appeler une Team Grey et une Team Black. Équipe qu'on ne va pas forcément voir, ou sauf à de très rares occasions, mais qui sont pourtant extrêmement actives. Mais une telle guerre clandestine nécessite des fonds. Et à partir de là, c'est un peu une vengeance politique, puisqu'ils vont vont récupérer les fonds nécessaires en pillant les comptes bancaires de l'Hydra. Et parallèlement, ils vont monter avec les vieux compagnons de Fury, donc les anciens Howling Commandos, donc en fait les membres de fils et membres de l'équipe originale des Howling Commandos, donc qui avaient parcouru le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Ils vont créer une société de mercenaires, un petit peu à la Blackwater, qui finalement va racheter ou récupérer des vieux hélicarrières du SHIELD et en embauchant 3000 agents du Hammer. Vous imaginez ce que ça peut faire quand une société de ce type a ce type d'armement.
Là, sur cette série, donc là, le premier tome va surtout s'intéresser au premier tiers, puisque la série fait 28 numéros. Donc
28 numéros.
Le premier one-shot, il retient les 10 premiers, plus Dark Reign The List Secret Warrior.
D'accord.
Bon. Et l'extrait dans Dark Reign New Nation, voilà. Donc, qui était un prélude, en fait, à la série. Moi, c'est une série, donc déjà ce qui
m'a... J'en dirai pas plus sur l'histoire,
on dépasse du premier tome.
Oui, et puis c'est quelque chose d'assez compliqué. Et enfin, je pense qu'on va en rediscuter. Ça va être un petit peu des petites critiques qu'on peut avoir, quoi.
Alors, moi, au niveau de ce titre, quand j'ai lu les débuts du titre, j'ai pas été jusqu'à la fin, pas encore eu le temps. Mais j'avais lu effectivement ce qui correspond à ce qu'on va avoir en France. Moi, la première chose qui m'a un peu gêné, c'est ce gros truc du complot du « Mon Dieu, mais le SHIELD était noyauté par Hydra avant même que Nick Fury y arrive. » Mais non, le SHIELD, il a été démantelé et recréé entièrement par Nick Fury. Alors certes, avec Valentina Allegro des Fontaines qui était à ses côtés, mais le SHIELD à l'époque, c'était une dizaine de personnes. Et le SHIELD ne pouvait pas à l'époque être dirigé indirectement par Hydra, puisque le numéro 1 du SHIELD, de toute façon, c'était Nick Fury, et qu'il était tout puissant avant, effectivement, qu'il y ait une organisation qui se recrée derrière.
Une deuxième organisation, mais n'oublie pas que, enfin, ce qui avait été quand même, ça avait été expliqué, lors dans le Nick Fury versus SHIELD, effectivement, le SHIELD, là, avait été complètement noyauté par les Deltites, et ces Deltites avaient été, c'était expliqué dans un one-shot Fury, qui avait été dessiné par N.C. Wayman, enfin qui n'était pas terrible au niveau des dessins, mais que en fait c'était une opération d'Hydra.
Tout à fait.
Donc on retombait un peu sur nos pieds après que.
Sauf que c'était le premier Shield, celui avec le premier acronyme.
Voilà, mais le deuxième après, même avec le système de direction qui était mis en place, c'est pas forcément étonnant. Ils ont toujours eu des problèmes avec des agents dormants de l'Hydra qui se sont révélés à divers moments. Donc après qu'ils poussent la logique un peu plus loin, pourquoi pas. C'est vrai que c'est présupposé, un prérequis qu'il faut accepter.
Et puis bon, l'agent dormant sur ce coup-là, ils ont fait quand même très très fort.
Oui, mais après, il faut voir. La suite aussi est assez.
Après, moi, ce qui m'a aussi un peu marqué, c'est que bon, là, toute la période qui sort dans cet album, c'est la période qui correspond à Dark Reign. Mmh. Puisque globalement, la première année, on est dans le concept de Dark Reign.
Tout à fait.
Et que c'est tout à fait logique d'avoir un Nick Fury qui soit là en train d'organiser ce qui est une résistance, pardon, à Norman Osborn.
Tout à fait.
Et il est totalement légitime dans ce rôle-là. Sauf que à partir de la deuxième année, quand le Shield revient à la place du Hammer,
il n'a jamais été renommé Shield directement d'ailleurs. Enfin,
mais en tout cas, à partir du moment où c'est désormais Steve Rogers qui va gérer la chose.
Oui, mais en fait, de toute façon, c'est l'organisation du Hammer qui a été quand même conservée, qui n'a pas été refondée ou autre.
Oui, enfin, tout à fait.
Elle a été un petit peu ripollinée, certes, mais.
Mais du coup, il n'y a pas de cohérence dans ce cas-là à ce qu'il reste cette organisation clandestine de Nick Fury, et que Fury ça pas
sauf que là oui, enfin je pense que vu le ce qu'il avait fait aussi auparavant, enfin là l'amnistie n'était peut-être pas forcément simple. Est-ce qu'il a eu d'ailleurs, enfin bon,
en même temps vu ce qui a été fait par Tony Stark et juste avant
oui, mais c'était légitimé par le pouvoir, c'est il y a une légère différence.
Ouais. Ben bon. Ouais. Enfin, c'était aussi légitimé par le pouvoir quand tu lui dis Secret War. Il le fait pour servir son pays.
Ah non, il n'est pas légitimé par le pouvoir, au contraire.
Il le fait en Black Ops, mais c'est quand même quelque chose qui arrange les États-Unis.
Oui, non, parce que le bordel diplomatique qui a été créé. Surtout que bon, l'opération a été faite une année auparavant, et c'est que lorsque les gens commencent à récupérer la mémoire, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont été utilisés pour un truc pas très clair dans Secret War.
Rappelons aussi quand même pour l'anecdote que cette série Secret War, elle a été complètement réécrite sur la fin.
Ah ben oui.
Puisque dans le scénario d'origine, elle devait aboutir à New Avengers, mais comme le dessinateur
Gabriele Dall'Auto.
Dall'Auto était tellement, oui, il avait plus d'un an de retard.
Ouais.
Et du coup, ben il fallait effectivement retrouver notre origine à New Avengers, et il fallait donc arriver sur une origine différente. On devait aboutir normalement à quelque chose de beaucoup plus super-héroïque dans la fin de l'histoire, puisque c'était les Vengeurs qui étaient censés se refonder.
Donc c'est un petit peu là, c'est là effectivement ils ont joué un petit peu. En plus sur Secret Warriors, bon il faut dire que c'était au départ une idée que Hickman avait et qui devait être normalement un titre indépendant chez Image. Donc il a été un petit peu rebidouillé pour y arriver.
Comme Shield.
Mais ce qui est intéressant, enfin après Secret Warriors, bon c'est vrai qu'on sent quand même la patte de Bendis un peu au départ. Mais devient, excusez-moi, c'est effectivement Shield qui était un truc d'indépendant, mais qui est finalement aussi lié à Secret Warrior. Mais ça, il faut le voir dans les derniers épisodes, mais je vous laisserai la surprise.
Donc là, c'est vrai que bon, en même temps...
C'est vrai que c'est un jeu, ça c'est, comment dire, les personnages sont super intéressants, effectivement, parce que même si on les voit pas suffisamment en action à mon goût, c'est vrai que il y a un côté un peu trop contemplatif et de jeu de go.
Ils sont nombreux. Et finalement, on n'a pas assez d'informations sur eux.
Non,
parce que leurs origines, elles sont quand même pas claires du tout.
Bah c'est au fur et à mesure, parce que Quake est apparu dans Secret Warrior. Le Phobos, donc le fils de Ares, là, est quand même un personnage.
Oui, mais lui, c'est dit assez clairement d'emblée.
Oui, mais ce qui est d'ailleurs. C'est intéressant. Et les autres, petit à petit, bon, le fils de Druid, enfin, il y a des choses comme ça qui apparaissent petit à petit. Mais ce que je trouve, les personnages sont assez bien caractérisés. C'est vrai que les défauts de confiance, d'arrogance qu'ils peuvent avoir quelquefois ou autre. Hickman réussit vraiment à les faire apparaître et bien les mettre en valeur. Après, effectivement, si on attend que Secret Warriors est une série un peu d'action pure, on se trompe. Et c'est vrai que c'est quelque chose, et un peu, il y a une petite frustration. On a l'impression d'être plus face à un jeu de go ou un jeu d'échecs, hein, en trois dimensions, et où tout le monde pousse ses pions en essayant de réfléchir à trois ou quatre coups à l'avance, quelle saloperie l'autre, quand on va faire.
Après,
surtout
je pense
qu'il y a quand même pas mal de morts.
On pouvait peut-être aller plus loin sur le côté espionnage, sachant qu'encore une fois, ça a été lancé avec Bendis en co-scénariste et dans le cadre de Dark Reign, et que par rapport à ça, on était obligé de rentrer dans de l'action assez rapidement.
Et le problème après, c'est que surtout, c'était au départ une série qui était prévue sur 60 numéros, à peu près une soixantaine de numéros, et qui s'est achevée en moitié moins. Et on sent sur les deux dernières arcs qu'il y a quand même un peu un petit rush, un peu plus de mouvement, ce qui n'est pas déplaisant. Je pense que là aussi, enfin, Hickman, ça c'est un petit peu la critique qu'on peut faire à Hickman. Moi, je trouve un scénariste que je trouve très intéressant, mais il y a des moments où on le sent plus intéressé par l'architecture propre du script que dans la dynamique même de l'histoire.
Je suis assez d'accord.
Et c'est quelque chose, donc c'est quelqu'un qui a de superbes idées, parce que c'est effectivement le coup de créer une force un peu financée par les fonds de l'Hydra, les fonds pour l'Hydra à la Blackwater avec les hélicalaires du Shield, et qui n'hésite pas à attaquer une base de l'Hydra qui est en plein territoire chinois. Il y a quand même il y a quand même des coronesses derrière. Il y a de superbes idées, quelquefois assez peu exploitées, pas assez exploitées. Et il y a un petit goût d'inachevé, quelquefois, qui transparaît. Alors, en plus, le dessin n'est pas forcément super bon. Il y a des moments, enfin, il y a un style. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est quelquefois, c'est pas forcément quelque chose qui aide à la lecture. Après, on a quand même intérêt à avoir une bonne connaissance du background de Marvel, ne serait-ce que les interactions avec les personnages, parce qu'on remonte quand même presque aux séries du Shield des années 60, certains quand même aux Lincoln Commandos des années 60. On retrouve aussi tout le monde un peu espionnage de Marvel, il faut quand même bien connaître un peu tout ça, et c'est vrai que c'est pas toujours d'une accessibilité fabuleuse.
Après, c'est un problème qu'on a eu sur toutes les séries Shield jusqu'à ce jour.
Oui. Et puis après, dernière petite chose, c'est vrai que c'est une série, je trouve qu'elle s'apprécie que quand on la lit en gros paquet de numéros.
Ah ben moi de toute façon c'est clair que
au moins par arc, parce que finalement c'est vrai que quand on lit les épisodes un petit peu intermédiaires au mois par mois, ben on s'aperçoit que la lecture est un petit peu hachée, on se dit qu'il y a des choses, et finalement c'est que lorsqu'on les lit d'affilée, quand les connexions se font et qu'on s'aperçoit du travail. Et arc par arc, on s'aperçoit qu'Hickman avait quand même très longtemps à l'avance planifié ses histoires. Et qu'effectivement, par rapport au titre qu'on lui donne d'architecte, à mon avis, c'est quelqu'un qui le mérite. Et c'est quand on regarde ces Fantastic Four actuels, on est exactement dans la même logique de construction.
Après, sur les capacités de Hickman, je pense que tout le monde est clair. En même temps, c'est aussi l'intérêt donc de l'édition qui sort aujourd'hui, Panini, qui fait quand même 280 pages pour 28,40€. Donc en même
c'est
temps,
un bon rapport qualité.
Voilà.
C'est une série qui est vraiment, que je trouve intéressante. Après, effectivement, on peut ne pas aimer ou ne pas rentrer là-dedans. C'est vrai que j'aime bien cet univers d'espionnage, et c'est vrai que Fury, de ce côté-là, c'est le maître espion.
Clairement,
et on le sent. Quoi.
C'est une série dans laquelle il faut se lancer. Qui a des qualités indéniables, tant graphiques, puisque c'est Cassidy qui dessine, qu'au niveau du scénario. Après, effectivement, c'est pas forcément à lire tous les mois. Ça sortait en France en mensuel, c'était pas forcément idéal. Et je pense qu'on l'appréciera forcément beaucoup plus dans ce format-là. Maintenant, effectivement, pour ceux qui ont les magazines, je vous invite à les relire directement et à vous faire un run complet sur la série. Et vous ne devriez pas effectivement être déçu.
Ouais, parce qu'il y a quand même de beaux moments. C'est vrai qu'il y a quand même des petits quelques passages au moment où je me sens trop avec la gorge un petit peu serrée.
Eh ben écoute Stéphane, on va te laisser avec la gorge un peu serrée.